vous dites porte-avions à propulsion nucléaire, ça veut dire qu'il a une autonomie en mer. Il n'a pas besoin d'être ravitaillé. Il peut justement durer pendant des mois et être opérationnel et servir comme il l'a fait en Libye, comme un peu une île à partir de laquelle partiraient les avions, les rafales et tous ces pilotes de chasse qui seront capables d'aborder justement aussi bien la Libye ou comme ils l'ont fait pendant l'opération Agapanthe en Afghanistan. C'est surtout l'autonomie. Au moment du départ du Charles de Gaulle au large de la Libye, beaucoup se sont mis à critiquer, même des gens de l'armée de terre, disant « mais nous avons l'Italie comme base aérienne, on n'en a pas besoin du Charles de Gaulle ». Eh bien, l'état-major, bien sûr, en France et l'OTAN, et Sarkozy lui-même, bien sûr, a donné cet ordre à ce que le porte-avions nucléaire soit sur place, parce que c'est la perfection même de l'autonomie et surtout de l'alliance des trois armes. Armée de terre, air et la marine. Et tout ça sur un milieu flottant, ou un milieu à partir duquel la France peut agir à distance des côtes libyennes sans faire une guerre qu'on appelle de guerre de conquête ou d'invasion terrestre. Et cette autonomie lui donne toute sa valeur et son privilège, quoi.
Vous avez évoqué toutes les personnes qui vivent et qui travaillent à bord, et vous écrivez dans ce livre « L'âme d'un bateau, c'est son équipage. En quoi c'est son âme ?»
L'âme, et vous imaginez par analogie le corps humain, et vous comparez comment fonctionne le corps humain avec nos connaissances d'aujourd'hui, qui ne sont pas ceux des temps de Léonard de Vinci, qui se cachaient pour faire l'anatomie. Bon, nous savons que tout est guidé par le cerveau, et que ce cerveau, dans un équipage, c'est le commandement, c'est l'amiral, c'est celui qui commande le bateau, et à partir de là, de ce carré, comme on dit, se constitue une hiérarchie d'une chaîne de commandement qui va jusqu'au moindre matelot. Et quand je dis moindre matelot, je ne suis pas péjoratif, je dirais le moindre matelot, parce qu'il est aussi important que l'amiral dans son poste, ou le commandant dans sa passerelle. Et cette autonomie permet au commandant d'effectuer ce qu'on appelle le principe qui est une invention et même une invention géniale de la doctrine sociale de l'Église catholique, qu'il a beaucoup défendu depuis tous les encycliques des papes. Et je l'ai dit même pour les laïcs qui ne sont pas catholiques, qui s'en inspirent à la Sorbonne où je suis ou ailleurs, qui s'inspirent de ce principe qui porte le nom tout simple de subsidiarité. Et il se trouve paradoxalement ce principe de subsidiarité date d'Alexandre, quand Alexandre donnait le droit à ses généraux de travailler à distance où ils étaient en Babylonie ou en Afghanistan ou en Égypte à partir de leurs subsides, ce qu'ils ont, une forme d'indépendance qui leur permette de prendre la décision nécessaire à partir de commandement. Et le bateau est fait de telle façon à ce que l'amiral, ayant donné la direction avec l'état-major, et moi j'étais proche de cette direction comme conseiller politique, c'est-à-dire donnant l'analyse politique de la situation quotidiennement, dans ce qu'on appelle les briefings du soir, c'est-à-dire une réunion d'une heure et quart, où on fait le point, et où tout le monde passe pour donner, bien sûr, la synthèse quotidienne. Et ça peut aller, bien sûr, des décisions de l'amiral jusqu'au moindre détail qui concerne le moteur, la machine, les hommes, l'équipage, la cuisine, cette nourriture si nécessaire à bord pour le moral de l'équipage et pour justement leur équilibre intérieur. En plus de tout cela, la subsidiarité n'est pas que militaire non plus dans la décision, elle est même psychologique. C'est pourquoi ce bateau est constitué de façon à donner à partir de l'amiral et du grand commandement les carrés où ils se retrouvent entre eux, où ils ont la liberté de parole, où même l'amiral, s'il doit accéder au carré des matelots, des officiers mariniers, des sous-officiers ou des officiers subalternes, il doit être invité par eux. Ce sont des carrés qui constituent un peu leur indépendance. Alors, il faut mettre cette indépendance au profit de la bonne décision et à ce que cette action se réalise dans le meilleur des cas pour la meilleure finalité et le bien commun de tout le bateau.
Vous avez partagé justement le quotidien de cet équipage, vous avez évoqué les carrés des différents membres de l'équipage. Est-ce que vous pouvez nous donner, au-delà de cet exemple, vos impressions sur cette vie qui est quand même si particulière et si méconnue des gens de terre ?
Chaque fois, l'impression que j'ai à bord de ces bateaux, c'est qu'ils sont dans un milieu incertain et flottant. Vous êtes dans un milieu incertain, vous êtes, la mer est insondable et ça n'est pas l'endroit où nous pouvons tout maîtriser. Et vous dépendez de ce climat, vous dépendez du vent, vous dépendez de tout. Ça, c'est la première et à mon avis, et magistrale qualité des marins qui sont à bord du bateau.
Est-ce que vous avez une autre impression? Parce que vous nous parlez d'un milieu incertain. Je suppose que du coup, à bord, pour lutter contre cette incertitude, il faut que tout soit certain.
Oui, il y a incertitude quant à l'élément de la mer qui peut être imprévisible. Et puis, ça, mais la certitude, elle est dans les termes de l'ordre de l'opération. C'est-à-dire, quand l'amiral donne ses directives et le commandant met le cap, qui commande les capitaines de vaisseau, les pilotes de chasse, les officiers mariniers, les machinistes, tous ceux qui se mettent à l'œuvre, il y a une opération, une finalité. Et là, il faut l'atteindre. Il faut que le repas soit prêt à telle heure. Il faut que le repas soit terminé à telle heure. Il faut que les machines soient chauffées à telle heure. Il faut que les pilotes qui préparent ces départs d'avion, voyez-vous, il y a toute une préparation. Si vous ajoutez la guerre, c'est-à-dire avec une mission spéciale d'aller sauver les gens de Benghazi au large de la côte, là vous commencez avec une machine pareille. La place au romantisme, du vol et du geste héroïque comme dans les temps anciens est uniquement dans l'image. Le reste est très précis et cette certitude qui est presque mathématique, ces ingénieurs qui deviennent des chevaliers du ciel montrent absolument tout le paradoxe. C'est toujours la mer. C'est ce paradoxe que vit justement le marin à bord, sans oublier celle bien sûr d'être attaqué par des missiles, d'où les exercices à bord de pouvoir se protéger contre ces attaques, les exercices de sauvetage, d'hommes à la mer, et le sondage pour prévenir ce danger.
S'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.